Voilà, nous avons maintenant la joie d'accueillir Mathias Joseph au milieu de nous. Il va se présenter lui-même en quelques mots et nous nous réjouissons d'écouter le message qu'il a préparé pour nous.
Voilà, donc bonjour déjà à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Donc en quelques mots, je viens de l'église de Munzenheim. Voilà, c'est le plus important à savoir. Je vous prie de m'excuser si je suis si je me présente ainsi assis devant vous. C'est une faiblesse passagère qui frappe votre serviteur. En effet, voici le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si les gens de ce monde vous haïssent. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas reste du côté de la mort. Quiconque a de la haine pour son frère ou sa sœur est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour accueillir la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Ces paroles sont tirées de la première épître de Jean, au chapitre 3, versets 11 à 16. L'apôtre Jean nous rappelle quelle est notre première vocation. Aimons-nous les uns les autres. La première vocation du chrétien. C'est un appel qui nous engage tout entier, il en va de notre vie. Car celui qui n'aime pas reste du côté de la mort. Pour être du côté de la vie, nous devons, nous dit Jean, donner notre vie les uns pour les autres. Et à l'heure où je vous parle, le monde est finalement très préoccupé par la conservation de sa vie. Entre les épidémies, les attentats, la brutalité de la mort s'impose à nouveau dans le discours général. Et c'est pourquoi, avec l'apôtre Jean, je vous propose de revenir sur l'histoire de la première mort, qui est l'histoire du premier meurtrier et qui est aussi l'histoire de la première ville. L'histoire de Caïn et Abel, telle que racontée en Genèse 4. De son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur ». Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de petits bétails et Caïn cultiva le sol. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit bétail dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva une profonde irritation, il en fut abattu. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et être abattu ? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais toi, maîtrise-le. » Cependant, Caïn s'adressa à son frère, et quand ils furent au champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je n'en sais rien. Est-ce à moi de veiller sur mon frère ?» Le Seigneur répliqua, « Pourquoi as-tu fait cela ? J'entends le sang de ton frère crier du sol vers moi. Tu es désormais un maudit, chassé du sol qui s'est ouvert, pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi tu auras beau cultiver le sol, il ne te donnera pas sa vitalité. Tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable, et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera pourra me tuer. » Mais le Seigneur lui répondit, « Non, car si quelqu'un te tue, il faudra 7 meurtres pour que tu sois vengé. » Le Seigneur mit alors sur Caïn un signe distinctif pour empêcher qu'il soit frappé par ceux qui le rencontreraient. Alors, Caïn partit habiter au pays de Nod, loin de la présence du Seigneur à l'est d'Éden, et de son union avec son mari, la femme de Caïn devint enceinte. Elle mit au monde Hénoc. Caïn se mit à construire une ville, qu'il appela du nom de son fils Hénoc. Hénoc fut le père d'Irad, Irad le père de Mehuyaël, Mehuyaël le père de Métouchaël, Métouchaël le père de Lémec. Lémec épousa deux femmes, la première nommée Ada, la seconde Silla. Ada mit au monde Yabal, l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent des troupeaux. Yabal eut un frère, Yubal, l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la guitare et de la flûte. Silla, elle aussi, eut un fils, Tubal-Caïn, le forgeron qui fabriquait tous les outils tranchants de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Silla, écoutez-moi. Femmes de Lémec, soyez attentives. Lorsqu'on me blesse, je tue un homme. Lorsque l'on me donne un coup, je tue un enfant. Car s'il faut tuer 7 hommes pour venger Caïn, il en faudra 77 pour que je sois vengé. » Caïn nous est présenté comme un homme comblé, matériellement et affectivement. Il a l'estime et l'amour de sa mère, il a le métier de cultivateur de son père, il possède, il est quelqu'un. En plus, c'est l'aîné. Abel, lui, est à l'opposé de son frère. Sa naissance se passe de commentaire, elle est citée là, comme ça. Il est le second, il vit en nomade, à la marge de la civilisation, avec ses bêtes. Même son prénom nous montre qu'il est un homme de passage. Abel, Hevel en hébreu, ça veut dire la buée, la vapeur qui passe. Caïn, lui, aura une grande destinée parmi les hommes. Fondateur de la première ville, père de toute la culture humaine, représentée par l'élevage, la musique et la forge. Son frère, Abel, en revanche, ne laissera rien, même pas une parole à la postérité. Nous ne savons rien de lui. Et voilà que ces deux frères, si différents, spontanément vont faire une offrande à Dieu. Et là, les rôles s'inversent. Abel est favorisé, contrairement à son frère. Caïn fait brutalement l'expérience de la frustration et de la jalousie. Et, à ce moment, s'entame un dialogue entre Dieu et Caïn. Et c'est ce dialogue, ce jeu de questions-réponses entre Dieu et Caïn qui est au cœur, qui est le nœud de cette histoire. Car c'est au cours de ce dialogue que Caïn tuera son frère, sera exilé, fondera la première ville, loin de la présence de Dieu. Si j'ai choisi ce texte aujourd'hui, c'est parce que la relation entre Caïn et Dieu, pour moi, c'est une image de la relation entre le monde et Dieu. L'histoire de Caïn et Abel est comme un miroir, notre propre situation vis-à-vis de Dieu. C'est une histoire qui nous amène premièrement à réfléchir à nos relations et à notre violence, à nos œuvres et enfin à notre écoute de la parole de Dieu. Caïn est le frère d'Abel, donc on pourrait attendre de lui qu'il aime son frère. C'est normal, non, d'aimer son frère ou sa sœur. Eh bien non, au contraire, Caïn fait preuve d'une violence extrême à son égard. Et pourtant, quand on relit bien le texte, ce n'est pas contre son frère qu'il en avait au début. Le texte dit « Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva une profonde irritation, il en fut abattu. » Si Caïn est irrité et abattu, c'est parce que Dieu a favorisé Abel. Caïn est en colère contre Dieu. Et Dieu vient donc lui parler. Dieu ne vient pas faire de reproches à Caïn, il ne vient pas le juger, il ne le condamne pas. Il pose une question. À quoi bon te fâcher et être abattu? Et par cette question, Dieu donne une chance à Caïn de s'exprimer, de mettre des mots sur sa colère. Mais Caïn se tait. Et Dieu ne fait pas que poser une question, il donne aussi une vocation à Caïn. Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Dieu pose une question. Pourquoi es-tu en colère? Et il donne une vocation. Domine ton péché. Mais Caïn n'écoute pas. Sa réponse sera terrible. Plutôt que de parler à Dieu, il tue son frère. Cet autre qui possède une bénédiction que moi je n'ai pas. Cet autre qui me limite, cet autre qui me résiste, cet autre qui est mon propre frère, je le hais. Et puisque je le hais, je le tue. Mais derrière lui, c'est en réalité Dieu que je hais et que je tue. Lui, ne nous y trompons pas. Si Caïn tue son frère, c'est uniquement parce qu'il ne pouvait pas directement tuer Dieu. Mais derrière chaque violence contre mon frère, ma sœur, mes parents, mon prochain, il y a un attentat contre Dieu. D'ailleurs, quand l'opportunité se présentera, l'humanité ne ratera pas l'occasion de tuer son Créateur. Nous sommes tous déicides, meurtriers de Dieu, au moins indirectement. Dieu revient une seconde fois vers Caïn et il pose à nouveau une question. Où est ton frère Abel? Caïn a de nouveau une chance de s'expliquer. Et donc, comme chacun le sait, Caïn va avouer son crime, il va reconnaître son péché et demander pardon à Dieu. Non, pas du tout, il fait exactement l'inverse. C'était pour voir si vous suiviez. Caïn s'esquive, il ment. Et il répond, je n'en sais rien. Est-ce à moi de veiller sur mon frère? Alors Dieu annonce à Caïn les conséquences de son acte. Désormais, il sera un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Et j'attire votre attention sur la ressemblance entre Caïn et son frère Abel à ce moment du récit. Souvenez-vous, Abel était nomade, marginal et victime de son frère. Maintenant, Caïn devient nomade, marginal et potentielle victime. Souvenez-vous, l'an dernier à Strasbourg, il y a eu une fusillade, un homme qui a ouvert le feu dans le marché de Noël sur la foule. Cet homme, donc, il était bourreau. Et ben, à partir du moment où il a ouvert le feu sur la foule, il est devenu l'homme le plus recherché du pays, en cavale, et il a été abattu, il me semble, quelques jours plus tard. Le bourreau devient la future victime, toujours. Ne soyons pas trop prompts à condamner. Dieu, pour protéger Caïn, lui donne l'assurance d'une septuple vengeance, et il l'envoie donc vagabonder. Sauf que Caïn ne sera pas un vagabond très longtemps. Il va fonder une ville, loin de Dieu. Il se sédentarise, loin de Dieu. Et dans sa ville à lui, l'homme va faire sa vie à lui, remplie de musique, de travail, d'activité, loin de Dieu. On voit en effet que les descendants de Caïn développent toute la culture humaine, l'élevage, la musique, la forge, et à partir de là, on peut aisément imaginer la suite. Personnellement, je trouve frappant de constater que toutes les œuvres notoires de l'humanité, les sciences, les techniques, les arts, naissent loin de la présence de Dieu. Non seulement elles naissent loin de la présence de Dieu, mais en plus, visiblement, elles provoquent un surcroît de violence. Les mecs qui disent « Eh bien, moi, je serai vengé 77 fois ». Alors je ne peux que me poser la question aujourd'hui. Les objets de mon quotidien, les sciences que j'étudie, le métier que j'exerce, la musique, toutes ces créations, ces œuvres humaines, d'où viennent-elles exactement? À quel projet répondent-elles? cet ordinateur, cet écran, ce téléphone, cette voiture, cette musique, ces inventions humaines me rapprochent-elles de Dieu? Ou est-ce une ruse pour éloigner mon Créateur? Je ne suis pas partisan du rejet total des techniques et des inventions humaines, mais je pense qu'aujourd'hui, il est vital de prendre un temps d'arrêt et de se poser réellement les questions, de poser des questions à ces objets du quotidien et leur demander quel projet est-ce que ça remplit exactement dans ma vie. Caïn tue son frère et construit sa ville dans le rejet de la parole de Dieu. Caïn fait à chaque fois l'inverse de ce que Dieu dit. Dieu lui dit de dominer son péché, il tue son frère. Dieu lui dit d'être vagabond, il fonde une ville. Les choses ont-elles beaucoup changé aujourd'hui? Les œuvres de l'homme ne sont-elles pas toujours une réponse, un rejet de la parole de Dieu? Ne soyons pas comme Caïn, soyons attentifs au message que le Seigneur nous adresse à chacun et à chacune. Ne faisons pas comme Caïn, il appartenait au mauvais et il tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Je cite à nouveau Jean. Les actions de Caïn, nous venons d'en parler. Qu'en est-il alors de son frère, Abel? Abel, je le disais, ne nous a rien laissé, on sait juste qu'il a offert un sacrifice qui a été agréable à Dieu. Sinon, rien. Pas d'œuvre grandiose, pas de paroles mémorables, pas de grandes trouvailles scientifiques, de conquêtes, de monuments. Et c'est peut-être dans cette absence que réside une partie de la justice d'Abel. Car Abel, celui qui passe cette buée, cette vapeur, n'est pas un révolté contre Dieu. Il ne fait rien pour tuer ou asservir son prochain, il ne cherche pas à s'éloigner de Dieu, et il est comme un vagabond sur cette terre, un étranger de passage. Et pour cela, il est déclaré juste. Alors c'est sûr, le monde, avec ses rêves de conquête, de gloire, de démesure, honorera Caïn, le fondateur de ville, et tous ceux qui lui ressembleront. Dieu, lui, honore Abel et ceux qui lui ressemblent. Celui ou celle qui vit comme Abel ne marquera sans doute pas le monde, homme ou femme de prière, qui écoute la parole de Dieu et ne laisse rien d'autre derrière lui qu'une offrande agréable. Mais nous n'avons pas à nous préoccuper de ce que nous laissons à ce monde. Nous avons à nous préoccuper de ce que Dieu veut. Nous avons à nous préoccuper de ce commandement. Aimons-nous les uns les autres. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux te sentir comme Caïn, plein de colère et d'amertume, où tu te sens un peu délaissé par Dieu. Tu te dis que la bénédiction est allée à quelqu'un d'autre. Peut-être au contraire, tu es comme Abel. Avec Dieu, ça va bien, mais tu te sens écrasé par la violence des autres. Quoi qu'il en soit, que tu sois plutôt comme Caïn ou plutôt comme Abel, le plus urgent aujourd'hui, c'est de s'arrêter et de se tourner vers Dieu pour entendre sa parole. Dans ce monde qui s'emballe, prendre un temps d'arrêt, stopper le cours de ses pensées, arrêter son travail, cesser pour un temps de s'inquiéter et venir devant Dieu, tel que nous sommes, pour écouter. Je vous invite à un temps de recueillement.